Bonjour et bienvenue sur Radio Évasion. Aujourd'hui, les élèves de 5e du collège Saint-Yves à Quimper vous proposent une émission thématique sur la sécheresse. Au programme, on va s'intéresser à la sécheresse agricole, aux nappes phréatiques, aux mégabassines et à l'avenir de la planète. Mais pour commencer, les élèves vous proposent un rappel de ce qu'est la sécheresse et de ses nombreuses conséquences.
La sécheresse, c'est un temps sec sans pluie. 2022 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée en France.
Le niveau des nappes phréatiques baisse.
Les récoltes vont diminuer et la sécheresse favorise les incendies.
Par exemple, dans les monts d'Arrée, en Bretagne, il y a eu des incendies pour la première fois en 2022.
Pendant la sécheresse, les plantes ne pourront plus puiser dans leurs réserves pour permettre leur survie. Les racines des plantes ne sont plus capables d'extraire le peu d'eau qu'il reste dans le sol.
Cela accentue la probabilité que la végétation prenne feu. L'herbe est complètement jaunie. Ceci a aussi causé de forts incendies dans les forêts cet été. Dans nos jardins, l'herbe est jaune, ça ne pousse plus en plein été.
Chaque été, le niveau des petits cours d'eau baisse, parfois jusqu'à leur assèchement complet. L'eau de la rivière qui traverse Quimper n'avait jamais eu le niveau aussi bas.
La sécheresse a frappé de plein fouet une grande partie des cours d'eau européens et français cet été.
Des animaux aquatiques vivent dans ces cours d'eau et si ces cours d'eau baissent ou disparaissent, cela complique le maintien de ces espèces.
Cet été, on ne devrait pas pouvoir autant remplir les piscines ou arroser les fleurs. Il faut prendre des douches et non pas des bains pour économiser l'eau.
On peut installer des récupérateurs d'eau de pluie ou des cuves pour arroser.
On peut filtrer l'eau et la retraiter pour qu'elle devienne potable.
Exceptionnellement, cette année, il y a eu plus de 30 jours d'affilée sans pluie, entre janvier et février, et le niveau d'eau dans les rivières a beaucoup baissé.
Les agriculteurs craignent un manque d'eau pour les semis, les arboriculteurs craignent que les racines de leurs arbres ne trouvent pas assez d'eau pour se développer et porter des fruits. Il existe aussi des risques pour les constructions avec l'apparition de fissures dans les murs car le sol est trop sec et craque.
Nous sommes inquiets parce que l'eau est une ressource vitale pour nous, habitants de la Terre.
Des sécheresses, il en existe plusieurs. La plus connue est la sécheresse météorologique, mais on parle aussi de sécheresse hydrologique ou encore de la sécheresse agricole. Éloane, Clara, Evan, Camille et Gaspard se sont intéressés à la sécheresse agricole. On embarque pour un micro-trottoir dans les couloirs du Collège Saint-Yves à Quimper.
Pour vous, comment lutter contre la sécheresse agricole ?
Donc en ne coupant pas trop les forêts, les arbres, en faisant des réserves d'eau par exemple dans les maisons, en faisant des réserves d'eau et en ne prélevant pas trop d'eau dans les nappes souterraines et faire des réserves d'eau l'hiver quand il pleut, notamment chez nous.
Eh bien, pour lutter contre la sécheresse agricole, il faudrait limiter la production d'élevage ou de légumes qui consomment beaucoup d'eau afin de préserver les ressources des nappes phréatiques.
Pour vous, quelles sont les principales causes de la sécheresse agricole ?
J'imagine une part du réchauffement climatique. On a eu peu de pluie, donc les nappes phréatiques se sont moins remplies et voilà le résultat.
Les principales causes de la sécheresse agricole sont les pluies qui diminuent, les saisons qui sont perturbées, le changement climatique et la pollution atmosphérique qui engendre ces réductions de précipitations.
Pour vous, quels facteurs peuvent aggraver la sécheresse ?
Les facteurs qui aggravent la sécheresse, je pense que le premier facteur, c'est encore une fois le réchauffement climatique. Donc du coup, c'est toutes les émissions de CO2 qu'on envoie dans l'atmosphère et qui font que c'est l'effet de serre. Puis peut-être aussi le fait qu'on cultive trop les sols et on ne les laisse pas le temps de se reposer. Et donc du coup, les sols ils s'assèchent et deviennent moins productifs à cause de ça, du coup.
Selon vous, comment protéger les espaces agricoles ?
Moi, j'ai toujours entendu mon grand-père qui disait qu'il fallait laisser les talus. Donc il y a beaucoup d'agriculteurs qui coupent les talus pour avoir des champs plus grands, ce qui est normal parce qu'on a besoin de faire cultiver des plus grands emplacements. Mais du coup, les champs et tout ça sont moins protégés. Et du coup, l'eau ne reste plus. Elle va partir loin, elle coule loin. Et du coup, elle ne reste pas sur les champs. Et du coup, ça assèche aussi les zones agricoles.
Pour protéger les espaces agricoles, je propose une agriculture raisonnée qui réduise les quantités, moins d'industrialisation, plus d'agriculture locale, raisonnée et si possible naturelle, ce qui implique que les gens acceptent de manger moins de viande et de consommer des légumes de saison.
Il faut que tout le monde soit de la partie. Il faut que les agriculteurs travaillent avec tout le monde, qu'on puisse les contenter eux, parce que c'est eux qui nous permettent de manger, mais que ce soit régulé. Je ne sais pas, s'il y avait une solution facile, on l'aurait déjà utilisée, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué.
Eh ben, merci d'avoir répondu à nos questions et au revoir.
Merci, monsieur.
Merci à Éloane, Clara, Evan, Camille et Gaspard pour ce micro-trottoir. Alors, la sécheresse, elle impacte le domaine agricole, mais elle nous impacte, nous aussi, au quotidien. Sidonie, Azilis, Léa et Leïla nous en parlent.
Pensez-vous que dans le futur, on pourra toujours remplir les piscines ?
Non, car si on remplit nos piscines, on ne pourra pas utiliser cette eau pour se doucher, se laver les mains et l'agriculture surtout.
Oui, si l'eau est utilisée en priorité pour les hommes, les animaux, les plantes et si elle est retraitée ou recyclée intelligemment pour éviter de la gaspiller.
Pourrons-nous, selon vous, avoir de l'eau douce plus tard ?
Ça dépend de comment on réussit à gérer l'eau douce aujourd'hui, comment on gère les nappes phréatiques, les lacs.
Pensez-vous que plus tard, il y aura toujours des rivières et des lacs ?
Ça dépend de la fréquence et de l'intensité des pluies, de la manière dont les nappes phréatiques se remplissent. Il faut éviter de puiser trop ces eaux douces.
Pensez-vous qu'on pourra toujours boire de l'eau en bouteille ?
Le plastique, c'est pas fantastique.
Merci Sidonie, Azilis, Léa et Leïla. Alors on parle beaucoup des nappes phréatiques dans cette émission, mais concrètement, qu'est-ce que c'est ? Loane, Corentin et Arthur vont répondre à toutes vos questions.
Quelle est la profondeur de la nappe phréatique ? Ces nappes peuvent être très profondes, parfois plus de 1000 mètres. Les vieux massifs montagneux sont constitués de roches cristallines, comme le granit et volcanique.
Quelle profondeur creuser pour trouver de l'eau ?
Un puits traditionnel sera de faible profondeur, 7 à 8 mètres, et collecte seulement les eaux de surface. Pour un usage important dans toute la maison, il faut choisir le puits foré au débit plus conséquent.
Comment vont les nappes phréatiques en Bretagne ? Véritable réserve qui réalimente les cours d'eau en période de sécheresse, ces nappes sont précieuses, mais pas intarissables. De nombreux forages sont utilisés pour l'alimentation en eau potable, mais aussi pour l'irrigation. Elles vont mieux depuis les pluies de fin mars-avril.
Comment savoir si j'ai une nappe phréatique dans mon jardin ?
Cette mesure s'effectue grâce à des dispositifs appelés piézomètres. Ce sont des forages réalisés depuis la surface, à l'intérieur desquels la profondeur de la nappe peut se mesurer. Par exemple à l'aide d'un flotteur.
Quelle est la plus grande nappe phréatique de France ? En France, la plus vaste nappe est celle de Beauce, dont la surface est près de 9000 km². Sur 6 départements, ces réserves sont estimées à près de 20 milliards de mètres cubes.
Comment vont les nappes phréatiques en France ?
Selon le Bureau de recherche géologique, 75% des nappes phréatiques ont un niveau bas, voire très bas.
Merci à Loane, Corentin et Arthur pour toutes ces informations sur les nappes phréatiques. Tout de suite, une courte pause musicale avec Azilis, Ambre, Méline, Ombeline et Madame Nicolas.
J'ai reçu une lettre qui parle de la sécheresse. Les glaciers disparaissent à cause de la chaleur et le soleil nous brûle. Nous ne savons pas quoi faire, mettons de la crème solaire pour protéger notre terre. Et nous sommes humains, pensons à demain, il est grand temps d'agir avant qu'il soit trop tard.
Pa 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 la pa
de la sécheresse.
Pa 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 la pa.
Merci à Azilis, Ambre, Méline, Ombeline et Madame Nicolas pour cette chanson. On en parlait en début d'émission, la sécheresse impacte principalement les cultures et donc les agriculteurs et les agricultrices. Des solutions sont étudiées pour aider ces agriculteurs et agricultrices face à ces problématiques climatiques. Mais les solutions proposées font parfois débat dans la société. C'est le cas notamment des méga-bassines dont on a beaucoup entendu parler. Kellyanne, Théon, Joseph, Alexis et Gwendal se sont penchés sur le sujet.
Bonjour, aujourd'hui nous allons, pendant notre débat, parler des méga-bassines. Chacun aura l'occasion de défendre son point de vue sur la question et pour cela je reçois Théon, Gwendal, Joseph et Alexis. Donc pour commencer, je vous fais un rappel de ce que sont les méga-bassines. Les mégabassines, ce sont des réservoirs d'eau utilisés pour l'irrigation agricole. Officiellement baptisées réserves de substitution d'irrigation, elles tirent leur nom de leur forme de cratère endigué. En moyenne, leur surface est de 8 hectares, mais les mégabassines peuvent en compter 18. Tout d'abord, je vais laisser la parole à Théone qui va exposer son point de vue sur la question.
Moi, pour moi, les mégabassines, c'est la croissance des cultures. Et remplir les mégabassines, on peut remplir les mégabassines de novembre à mars l'hiver lorsque l'eau est abondante. L'agriculteur compte y puiser l'été. Et je vais laisser la parole à Alexis.
Les mégabassines peuvent être toucher le changement climatique, mais elles suffiront pas à protéger l'agriculture sur le long terme. Elles assèchent les nappes phréatiques, elles pompent l'eau des nappes phréatiques, et je vais laisser la parole à Joseph.
Alors, les mégabassines assèchent les nappes phréatiques, contrairement aux retenues collinaires ou des barrages plus classiques, sont généralement situées dans des zones de relief, se remplissant naturellement avec de l'eau d'écoulement ou de ruissellement. Ces zones ne sont pas imperméables. À l'inverse, les bassines sont alimentées uniquement par pompage de l'eau dans une nappe ou une rivière. Les bassines ne sont pas remplies avec de l'eau de pluie et ne permettent pas non plus d'éviter les inondations comme on peut le lire parfois. Les craintes des gens, aussi les craintes des gens commencent déjà à porter sur le futur parce que l'eau vient aussi à manquer l'hiver, ce qui est un problème pour la durabilité du projet. En théorie, le fait de décaler les prélèvements en hiver ne va pas conduire à une hausse de la consommation. Mais dans les faits, les opposants craignent un effort rebond lié à l'impression de disponibilité. Maintenant, je vais passer la main à Gwendal.
Je pense que nous avons besoin des mégabassines car elles permettent car l'eau stockée en surface permet d'assurer la bonne croissance des cultures. En remplissant les bassines l'hiver, lorsque l'eau est abondante, les agriculteurs comptent y puiser l'été, limitant ainsi leurs prélèvements lorsque les nappes phréatiques ou les cours d'eau sont au plus bas. C'est pour cela qu'on les appelle réserves de substitution d'irrigation. Les bassines permettent de sécuriser le rendement agricole tout en évitant les conflits d'usage de l'été. Elles sont également préservées comme une adaptation au changement climatique, y compris par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Mais il y a aussi des protocoles engageant les agriculteurs à prendre des mesures de compensation écologique, telles que la plantation des haies, la conversion de terres à l'agriculture biologique ou encore la réduction de l'utilisation des pesticides.
Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter quelque chose ?
Oui, moi. À court terme, le moyen le plus efficace pour préserver la ressource en eau est de lutter contre le réchauffement climatique par les mesures d'assainissement.
Et les personnes qui ont construit les mégabassines, ils voudraient rentabiliser encore plus et assécher donc du coup plus les nappes phréatiques.
En résumé, nous voyons bien que c'est un sujet sur lequel il nous est difficile d'être d'accord. Tous les arguments étaient recevables. En France, il y a déjà entre 1000 et 2000 bassines qui sont en projet ou déjà construites. Les territoires principalement concernés par les projets de bassines sont la Nouvelle-Aquitaine et les Pays de la Loire. Les régions Centre et Bretagne commencent à y être confrontées. En conclusion, je dirais que tout le monde a son opinion sur ce sujet délicat, mais que les mégabassines semblent une solution non durable pour l'écologie.
Merci à Théon, Joseph, Alexis, Gwendal et Kellyanne de nous avoir donné leur point de vue sur le sujet. Clotilde, Lou, Anaëlle et Cassiopée se sont, elles, intéressées à l'état du monde en 2050. On les écoute.
Le monde en 2050. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du monde en 2050. Clotilde commencera par nous présenter comment sera le monde en 2050.
La planète sera de plus en plus surpeuplée et ses habitants se concentreront dans les villes. Les technologies produiront davantage de richesses, mais il faudra tenir compte des inégalités et de la durabilité. La population mondiale atteindra 9,8 milliards de personnes en 2050, tandis qu'en ce moment, nous sommes à 8 milliards. Elle augmentera donc de 1,8 milliard de personnes.
Merci Clotilde de nous avoir informés. Maintenant à toi Lou, est-ce que nous allons manquer d'eau ?
La quantité d'eau disponible par personne pourrait tomber à la moitié du niveau actuel, qui est déjà deux fois plus bas que celui de 1960. D'ici 2050, entre 2 et 7 milliards d'êtres humains seront confrontés à une pénurie d'eau.
Merci Lou de nous avoir informés. Pour finir, Cassiopée va nous répondre à cette question. Quelles seront les solutions contre le réchauffement climatique ?
Privilégier les transports moins polluants, manger moins de viande, plus de légumes et consommer local. Réduire ses déchets, lutter contre la pollution numérique sont des solutions contre le réchauffement climatique.
Waouh, ça fait beaucoup, mais ça nous informe plus. Merci pour ces informations et à bientôt pour de nouvelles émissions.
Merci à Cassiopée, Annel, Lou et Clotilde pour toutes ces informations. On termine cette émission sous l'eau avec une histoire écrite et interprétée par Marc, Evan et Lucas.
Dans son enfance, Marc était un petit poisson qui vivait dans l'océan Pacifique. Et il a perdu son père, car son père avait ingéré un plastique et s'en est pas remis. Depuis le temps qu'il a perdu son père, Marc se sent seul. Tous ses amis ont été pêchés et sont morts. Et se sent moins bien chez lui.
Peu à peu, Marc se rendit compte qu'il y avait aussi de moins en moins d'eau dans la rivière. La sécheresse fait des ravages et les poissons sont de plus en plus rares. Certains poissons quittent les eaux vers l'Atlantique et vers le nord. Les poissons sont des migrants climatiques. Marc décide de partir seul pour sauver sa peau de poisson. En chemin, il va faire une étrange rencontre.
Le poisson Marc continue le chemin lorsqu'il fait la connaissance d'une tortue du nom de Lucas. Ils font connaissance et ils veulent aller dans l'océan Atlantique près de la Bretagne parce que l'eau est plus propre et moins polluée. Après, Marc et son ami étaient repris par l'Océanopolis pour vivre une meilleure vie.
Merci Lucas, Marc et Evan pour cette histoire. On sort la tête de l'eau pour un retour sur la terre ferme. Vous venez d'écouter une émission réalisée par les élèves de 5e du collège Saint-Yves à Quimper. À bientôt sur Radio Évasion.